RCF. Frédéric Lemarchand, merci de nous accueillir chez vous à Vézelay, dans votre appartement-atelier à deux pas de la magnifique basilique romane dédiée à Marie-Madeleine. Ceux qui vont nous accompagner dans cette heure d'émission vont vite comprendre la parenté qu'il y a entre Marie-Madeleine, cette incarnation de l'amour mystique du christianisme, et votre parcours, votre art. Vous êtes peintre, Frédéric Lemarchand, et vos toiles sont comme une fenêtre ouverte sur l'invisible. Lumière, sérénité, visage iconique, vos œuvres sont la manifestation d'une vie intérieure, dense, intense, mais qui fut passée au creuset de bien des épreuves, nous allons le voir. Vous êtes né avec une malformation cardiaque qui fragilisait également vos poumons. Les médecins ne vous donnaient que quelques années d'espérance de vie. Pourtant, la petite fille qui devait mourir a pu, des années plus tard, à 34 ans, être greffée du cœur et des deux poumons. Une opération qui va s'accompagner de 40 jours de coma. 40 jours qui vont bouleverser votre perception de la vie. Mais Frédéric Lemarchand, pour commencer, j'aimerais savoir si cette capacité d'émerveillement que vous avez et que l'on perçoit vite quand on vous rencontre ou que l'on regarde vos toiles, cette capacité d'émerveillement, vous l'aviez déjà tout enfant ou elle est venue plus tard?
Je suis née avec cette sève ardente qui voit peut-être de l'intérieur les choses. Et quand on voit de l'intérieur, en fait, tout est merveille. Mais parfois, on se prend les pieds dans le tapis quand on regarde uniquement l'extérieur et ce monde d'ombre et d'apparence. Et ça m'arrive aussi. Mais heureusement, grâce à mes grandes solitudes, eh bien, j'ai pu plonger assez vite à l'intérieur pour regarder de l'intérieur le monde.
C'est votre maladie qui vous a poussé à aller vers l'intérieur?
C'est plusieurs facteurs, parce que j'ai eu la chance d'avoir une vie très bouleversée pendant l'enfance, avec beaucoup d'inconscience autour de moi, donc forcément...
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Quelque chose d'assez violent. Et quand on est entouré d'inconscience, où le langage est d'un coup un peu barbare... On va chercher une certaine langue maternelle à l'intérieur de soi.
Parce qu'on a décelé votre maladie, vous étiez toute petite.
Oui, alors je suis née avec. Simplement, alors je ne sais pas ce qui s'est passé à ma naissance, j'aurais pu être opérée nourrisson, en passant par la fémorale et pour collaber un petit shunt, mais ça n'a pas été fait. Et du coup, ça a entraîné après une hypertension hyper véloce qui me condamnait à ne pas vivre bien longtemps, quoi, 12 ans maximum.
Et donc vos parents ont accepté cette idée que vous alliez mourir très jeune?
Voilà, c'était un petit peu entendu entre nous que je n'étais pas viable et que du coup tout était prêt, mon caveau était prêt, tout était prêt, quoi.
Vos parents s'étaient complètement préparés à cette idée.
Oui.
Vous dites souvent, j'ai entendu dans des
alors
interviews...
Alors c'est un univers paysan. Mm-hmm. Et quand mon père voit dans son cheptel un animal chéti, comme il dit, mm-hmm. eh bien voilà, il faut s'en débarrasser. Mm-hmm. Et quelque part, j'étais un peu regardée de cette manière-là. Parce que c'est l'inconscient dont je parle, c'est-à-dire... Quand on est uniquement avec les yeux temporels, les yeux de la créature, et qu'on ne voit pas plus loin que cet infini qui nous traverse, quoi. On ne voit pas cet infini qui nous traverse.
Et alors, la petite fille que vous étiez, Frédéric Lemarchand, vers 5, 6 ans, comment est-ce qu'elle était?
Je pense qu'elle était pleine de vie, justement. Elle était. extrêmement vivante, ce qui était assez inquiétant du coup, parce que comme dans ma poitrine j'avais comme une espèce de bulle de savon, fallait pas que je fasse trop de mouvements brusques.
Donc cœur très fragile.
Ouais.
Petits poumons.
Alors mes poumons étaient en forme, mais le problème, comme j'ai fait beaucoup d'hémorragie, les poumons finissaient par se nécroser. Mais sinon à la base ils étaient en forme.
Mais vous avez eu plein de vie.
Mais j'étais pétillante. Et du coup, on m'amenait souvent voir le docteur pour me donner des tranquillisants. Parce que il fallait pas que je sois trop tout feu tout flamme, quoi.
Que vous pour étiez, essayer de... que vous étiez en fait, tout voilà. Feu tout flamme.
Ouais. Parce que je devais mourir.
Ouais. C'était programmé comme ça.
C'était
quoi.
Programmé.
Vous
donc,
deviez mourir.
J'avais mes doses de Lexomil pour me calmer.
Et vous, quels étaient vos rêves, là, la petite fille de 5-6 ans? C'était déjà de peindre, de dessiner?
Ah oui, bah, j'ai toujours dessiné. J'ai toujours dessiné. Alors ça, c'est des bons souvenirs que j'ai avec mon père, parce que lui-même, il dessinait. Donc je me mettais sur ses genoux, et ma main dans la sienne. On admirait beaucoup le monde équestre, donc on dessinait beaucoup les chevaux. Et il m'a montré les premiers dessins animés, où on superpose deux images avec le pas différent du cheval. Et puis après, on fait rouler avec un crayon le papier et ça anime le cheval. Donc vous voyez, j'ai eu des bons souvenirs aussi.
Les chevaux sont très présents dans votre vie, ils sont présents dans vos dessins également, voire même des centaures qui sont très présents. Ce lien que vous avez avec le milieu équestre, il vient d'où? De votre père aussi?
Oui, il vient du côté paternel. Mes ancêtres étaient cavaliers. Ils ont fait la cavalerie lors des guerres, Saumur. Et mon père était cavalier de concours complet. Donc je suis née entre les pattes des chevaux.
Et alors, avec votre fragilité, donc justement, petite fille fragile, vous avez quand même pu faire du cheval, vous avez quand même pu monter?
Oui, j'ai quand même pu monter. Je montais à cru dans les champs, sur le dos des chevaux, sans rien. Et puis après, petit à petit, j'ai commencé à prendre des cours, des vrais cours, quand j'ai vu que finalement ma situation n'était pas si en péril que ça, et que finalement je pouvais suivre le galop des chevaux.
Mais votre rêve, Frédéric Lemarchand, c'était quoi? D'être cavalière? C'était d'être peintre?
C'était d'être peintre à cheval. Alors moi, j'aimais beaucoup les peintres qui suivaient les grandes campagnes, par exemple napoléoniennes, et qui peignaient les grands paysages d'Égypte, tout ça. Et ça me faisait vraiment rêver, ces explorateurs à cheval qui nous ramenaient des images en peinture de tout ce qui se passait.
Visage, Thierry Lyonnais.
Alors Frédéric Lemarchand, j'aimerais qu'on parle de cette période de votre vie où on vous donne une espérance de vie de 12-14 ans. Puis à 14 ans, vous êtes là, vous êtes toujours vivante, toujours bien vivante. Mmh. On s'est posé la question de greffe à ce moment-là, à 14 ans.
Oui, j'étais dans le service du professeur Cabrol, qui à l'époque était à la retraite. Il avait été remplacé par un éminent professeur Ganschbach qui m'a tout de suite pris dans ses bras. Il m'a dit « Tu as le même prénom que ma fille, je m'occuperai de toi comme de ma fille. On va te placer sur liste d'attente de greffe. » Alors, ça me faisait pas...
Double greffe, hein, il faut dire. Greffe du cœur et greffe des deux poumons.
Voilà.
Ce qui est rare et excessivement dangereux.
Eh ben, c'est surtout qu'on prend trois organes et... Et c'est vrai qu'il y a très peu donneurs et donc assez peu reçoivent à temps la greffe. Donc il y a beaucoup de décès chaque année.
Et c'était cœur, poumon d'enfant?
Ouais, d'une petite cage thoracique. Parce que même moi, adulte, j'ai une cage thoracique d'ado. Donc c'était forcément un jeune ou une jeune qui... en état de mort encéphalique, permettait le prélèvement des organes.
Et comment vous anticipiez cette idée d'être greffé?
Alors à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Et il fallait se trouver dans un petit périmètre pour que l'hélicoptère puisse atterrir, pour faire très rapidement la transplantation, parce que j'habitais assez loin de Paris, le temps de me rapatrier, bon. Alors j'avais un Eurosignal en bandoulière.
Que vous ne deviez jamais quitter.
Que je ne devais jamais quitter, mais que je quittais quand même souvent, parce que c'était vraiment lourd de savoir qu'on pouvait être appelé à n'importe quand, qu'il pouvait sonner n'importe quand. Puis il y avait des moments où vraiment j'avais pas du tout envie que ça sonne, notamment quand j'étais avec les chevaux. Donc je le posais quelque part. De toute façon, j'ai pas été appelée tôt, hein, parce que j'ai attendu très longtemps ma greffe.
Attendez, c'est hallucinant. Vous avez attendu 20 ans pour être greffé. Mmh. Vous qui deviez mourir vers 12 ans, à 14 ans, on vous propose de vous greffer et vous avez attendu 20 ans.
Oui.
Comment on vit ça, cette attente, en sachant que sa vie en dépend quelque part?
En même temps, alors, mon père n'était pas favorable pour la greffe. Il était contre.
Ça veut dire qu'il voulait vous laisser mourir?
Voilà, il trouvait qu'il valait mieux mourir naturellement. Donc intérieurement, j'avais un grand combat, parce que c'est vrai, je me disais peut-être que je m'artificialise. En ouvrant ma poitrine et en changeant tout de main d'homme, on contrevient peut-être à quelque chose qui est de l'ordre du vivant.
Vous disiez vraiment ça?
C'était compliqué dans ma tête. Ouais. Et puis, est-ce que j'interromps pas la mort de quelqu'un au niveau de son âme en prenant ses organes? Et puis, comme je prenais trois organes qui pouvaient sauver trois vies et moi une, c'était vraiment compliqué. Donc,
de culpabilité.
Je n'en voulais pas. Je préférais mourir naturellement.
Et mais c'est pas la raison qui a fait que ça a duré aussi longtemps, cette attente?
Alors, je pense que les médecins ont toujours regardé et observé mon comportement. Ils n'étaient pas très rassurés de voir que je n'avais pas une famille sécure, parce qu'ils se disaient « elle ne tiendra pas », parce qu'elle n'a personne en fait autour d'elle. Et puis, ils étaient un petit peu, entre guillemets, émerveillés de voir que finalement, bon an, mal an, j'allais quand même plutôt bien, quoi.
Comment vous avez tenu Frédéric Lemarchand, toute jeune, comme ça, vers 12, 13 ans, en sachant que vos parents, on parle de votre père, mais il y a aussi votre mère, étaient prêts à vous laisser mourir? Et vous, la petite fille, quelque part seule, vraiment, il y a une forme de solitude, de choisir de vivre. Est-ce que vous auriez pu vous laisser mourir aussi? Dire, bon, ben, mes parents veulent pas de moi, je me laisse mourir.
C'était pas mon tempérament. C'était pas mon tempérament et je crois que ces silos de solitude ont été vraiment mes meilleurs conseillers en fait, parce que j'avais vraiment la sensation de jamais être seule.
Vous aviez la foi déjà, parce qu'aujourd'hui la présence de Dieu, on va le voir, on va en parler, est essentielle dans votre vie, dans votre peinture, mais déjà toute petite dans cette grande solitude, il y avait une présence aimante.
Oui, déjà. toujours. Quand je trouvais que la vie était terriblement injuste et barbare, je me disais toujours qu'il y avait un témoin.
Vous mettiez les mots, je dirais, d'une éducation catholique ou pas? Non.
Non.
C'était pas Jésus, c'était pas...
Non,
c'était une présence.
C'était une présence, ouais.
Aimante, déjà?
Oui. Oui, parce que j'ai toujours senti que malgré tout ce qui puisse se passer, le soubassement était tranquille et bon. Toujours, je l'ai senti, ça.
Vous ne receviez pas cet amour sécurisant de la part de vos parents, mais vous l'aviez de cette présence inconnue, quelque part.
Oui, que je trouvais dans la nature, auprès des chevaux, dans les rivières à chercher les truites. J'ai une belle enfance, en fait, parce que j'étais dans la campagne. Il y avait un très bel étang, arboré d'arbres sublimes. Donc j'ai souvent été dans les arbres. Les êtres pourpres se souviennent de moi, je pense. Et je trouvais, j'y puisais en fait beaucoup de force, parce qu'ils sont toujours résilients. Quand je vois un barbelé qui étrangle un arbre, je vois la force de l'arbre qui englobe le barbelé. Il juge pas, il l'intègre. Donc c'est des grands exemples.
Frédéric Lemarchand, vous avez dû attendre 20 ans pour être greffé. Donc de 14 ans à 34 ans, vous avez vécu beaucoup de choses. Vous rêviez de quoi essentiellement quand vous étiez jeune fille vers 20 ans, quand vous avez commencé, je crois, à faire des études d'art et d'apprendre avec Paul Buffon,
oui,
pour l'art du feu, par
oui,
exemple.
J'avais une soif de ces maîtres, de ces traditions maîtres-disciples, avec des grands maîtres compagnons ou des maîtres d'art du feu. Et pour moi, en fait, c'était une haute connaissance parce que à la fois, on travaillait de nos mains, mais en même temps, il se passait quelque chose sur d'autres plans. Donc, il façonnait déjà mon être.
Mais c'était l'art hein, qui vous attirait,
oui,
parce que vous avez eu une formation dans les métiers de l'art.
Oui, oui, oui.
Les émaux avec
Paul
Buffon,
ouais, les reproductions de tableaux anciens avec un immense maître Elias de Garance.
La copie, l'apprentissage
ouais,
classique, on va
voilà,
dire, apprendre à copier les grands maîtres.
Donc on copie main droite quand c'est un droitier, main gauche quand c'est un gaucher, avec l'état d'esprit du contexte. C'est très très riche. Ouais.
Et puis alors après, avec un artiste contemporain, Cao Baihan.
Ah voilà, Cao Baihan, c'est celui qui m'a ouvert la grande porte orientale du vide et du plein, de ne pas forcément faire des contours, de laisser respirer le sujet qui se nourrit d'infini.
Un apprentissage très classique, finalement, dans l'art.
Ouais.
Et puis après, une sorte de liberté d'un jaillissement.
Ouais.
C'est ce qu'on retrouve dans votre peinture.
Ouais. Ouais, un affranchissement de toutes les techniques. Mais c'est parce qu'il y a cette belle base que je me permets de m'affranchir de ça, justement. Alors, comme j'ai fait de la copie, eh bien, je défierais quiconque de copier mes toiles parce que j'en serais incapable, moi, par exemple. C'est une technique, en fait, de vibration que je fais.
Alors, on reparlera, bien sûr, Frédéric Lemarchand, de votre rapport à l'art, de votre rapport à la peinture. Mais j'aimerais qu'on revienne dans cette relation à vos problèmes de santé, vos problèmes de vie. À 34 ans, le 11 février 2012, enfin, on vous propose cette greffe tant attendue, greffe du cœur, greffe de deux poumons. À ce moment-là, vous étiez dans quel état d'esprit pour accueillir ces greffes?
Alors, je n'avais pas pris de drogue, mais j'étais euphorique. Je sentais que c'était extrêmement juste. Après ces 20 ans d'hésitation, de doute, de tourment, mais le jour J a frappé à mon cœur d'une manière complètement juste alignée. J'étais ouverte à tout ça, complètement prête à vivre cette aventure. Je savais qu'elle allait me modifier sur tous les plans.
Vous aviez l'intuition que ça allait être un moment
ouais,
particulier, parce que vous avez déclaré un jour, j'allais embrasser mon destin.
Ouais.
Vous le sentiez à ce moment-là.
Ah oui. Ouais. Et ça, c'est inexplicable. Hein. parce que je freinais des cas de fer pendant 20 ans quand même. Hein. Et le jour où ça s'est présenté, et j'étais sûre que c'était lui et qu'on allait se retrouver.
Vous avez fait un dessin avant cette opération très grave. Ce dessin, il est là, hein, chez vous, dans la pièce à côté. Je l'ai vu en arrivant. Pouvez-nous le décrire, ce dessin que vous avez réalisé avant l'opération?
Oui. Alors, à savoir que j'étais allongée parce que je faisais beaucoup d'hémorragie interne. J'avais très peu d'air parce que mes poumons étaient pleins de sang. Donc, j'étais vraiment dans un épuisement presque complet. Et j'étais allongée tout en le dessinant, ce qui paraît fou parce que on peut pas maîtriser les perspectives d'un visage sans prendre un peu de recul. Bon, ça dit clairement que j'étais traversée. Et ce dessin, c'est une femme qui porte des ailes et qui ouvre sa cage thoracique dans laquelle gît un enfant qui n'est plus en position basse, mais à l'endroit du cœur, comme pour une naissance nouvelle. Et c'est entouré de deux poumons qui sont en forme d'un poisson et l'autre d'un oiseau, comme s'il y avait un changement, une mutation entre deux airs.
Comment vous relisez aujourd'hui cette œuvre que vous n'avez jamais ni vendue, ni donnée, qui est là, qui est importante dans votre vie? Comment vous la relisez aujourd'hui, ce fusain, puisque c'est un fusain?
Oui, c'est un fusain. Je le regarde en me disant qu'à chaque fois, mes dessins m'ont précédé, de toute façon. C'est toujours eux qui ont ouvert la porte et en fait, j'ai l'impression qu'ils me parlent de cette deuxième naissance. Cette naissance qui ne souffre plus de mort, en fait.
C'était l'annonce d'une deuxième naissance? Ça veut dire qu'il y a des dessins qui sont comme des songes par rapport aux rêves?
Oui.
Qu'il y a des dessins qui vous sont donnés et qui ont un message à vous adresser d'une manière particulière, comme dans notre vie, la grande différence entre le songe et le rêve?
Oh, mais complètement. Là, on sent que ça vient de l'arbre de vie, je dirais, qui nous distribue une information subtile et je dirais peut-être les anges qui nous guident.
Et c'était l'annonce d'une deuxième naissance, que quelque chose de complètement différent allait arriver dans votre vie.
Je ne l'avais pas du tout perçu quand je le dessinais. Mmh. Ça me faisait juste du bien de le dessiner. Mais c'est après. Et c'est une grande amie, Barbara Soya, qui est sculpteur, qui déroule mon dessin du casier et qui me dit « Mais t'as fait ça quand ?» Mais je lui dis « Ah oui, juste avant. » C'était les quelques jours avant la greffe. Elle me dit « Oh là 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 là, tu vas me l'encadrer ce dessin. » Parce que je me rendais pas compte du tout de ce que j'avais fait.
Frédéric Lemarchand, cette très grosse opération, grève du cœur, grève des deux poumons, a lieu le 11 février 2012, pas anodin, 11 février, hein, c'est ouais, Notre-Dame jour... de Lourdes, oui, c'est le jour des malades.
C'est ça.
Vous êtes opéré ce jour-là et vous rentrez dans un coma de 40 jours.
Oui.
Alors là aussi, on peut se dire, c'est la symbolique, la symbolique, 40 jours dans le désert, 40 jours... J'aimerais qu'on parle de ces 40 jours de coma que vous avez vécu.
Là, vraiment, c'était justement la traversée du désert, mais c'était en haute mer.
Bien.
C'est-à-dire que là, j'étais vraiment dans les eaux de mon inconscient, chargée d'énergie extrêmement puissante, extrêmement violente, de tout ce que je n'avais pas su orienter dans l'amour. Tout m'a été resservi et les écailles de mes yeux ont fini par tomber quand j'ai commencé à comprendre que ceux que je prenais pour mes ennemis étaient en fait de redoutables entraîneurs spirituels.
Alors attendez, pour la plupart des gens, coma, c'est perte de conscience.
Oui.
C'est le blackout complet, quoi, le noir complet. Vous, dans ces 40 jours de coma, vous avez vécu, mais sur un autre plan. Et vous vous en souvenez.
Oui. On aurait pu le définir comme un mauvais rêve, un gros cauchemar, une expérience négative, comme on appelle. Mais quand on s'est décrypté, en fait, c'est tout le contraire. Par exemple, je me suis souvent vue descendre comme le long d'un toboggan, tête en bas, et arrivée en bas, ma tête était tranchée. Et ça, plein de fois. Et en fait...
C'est pas les effets des médicaments qu'on vous donnait. Vous pensez que c'est une expérience intérieure profonde de transformation?
Alors, on peut le prendre sur un plan psychologique et en rester là, mais après, si on le prend sur le plan ontologique, on sait que tout a un sens et ces décapitations étaient là pour me faire grandir et me passer à un autre niveau de conscience, et urgemment, parce que je l'avais pas.
Vous avez vu ce que vous appelez les monstres intérieurs. Donc,
ouais.
Il y a eu toute une période de ces 40 jours qui était un peu, enfin... Quand on vous entend ou qu'on vous lit, il y a un côté infernal, un peu. Enfin,
ah oui, oui.
Vos démons intérieurs.
Oui. En
et
fait, les démons.
Qu'est-ce que ça venait vous dire et vous faire de vivre ça?
Ben, les démons me montrent que c'est en fait la projection de mon ombre. Et qu'en fait, c'est complètement illusoire.
Toutes nos peurs, toutes nos agressivités, toutes nos rancunes, tout ça, c'est ça.
C'est nos fabrications.
Nos haines, notamment vous en vouliez à un homme que vous aviez aimé, qui vous avait abandonné, là vous
voilà.
Vouliez. Ça ressortait à ce moment-là.
Ça ressortait à ce moment-là, sauf que ça ressortait et en même temps j'avais une double lecture. C'est un petit peu pour ça peut-être qu'on a deux yeux. Il y a un œil qui juge et puis l'œil qui aime. Et enfin, il y avait quelque part une vision trine là qui s'ouvrait, qui me permettait de faire la synthèse des contraires en fait. D'arrêter d'être toujours d'un côté ou de l'autre, mais d'épouser en fait ce que j'ai vécu. Et de me dire que, non pas du tout que la souffrance est ontologique, parce qu'elle ne l'est pas, mais en tout cas, j'ai réussi à travers elle à avoir un regard princier sur la vie.
C'est-à-dire un regard quoi ? Aimant sur la vie ?
C'est-à-dire un regard qui ne voit plus avec le côté psychotraumatique quoi. Un regard qui regarde depuis l'œil d'or, comme dirait Christian Bobin. Cet œil qui fait avec ce qui est, tel que c'est.
Qui accueille ce qui est, tel que c'est, sans juger.
Voilà.
Et c'est ce qui vous a permis de pardonner à vos parents, de pardonner à cet homme qui vous avait abandonné, de changer votre regard complètement sur ce que vous aviez vécu.
Oui, ça m'a permis surtout de me pardonner d'en avoir autant voulu aux uns et aux autres. Et à partir de là, en fait, vraiment, je pense que la greffe a été irriguée réellement. Parce que le pardon, je pense que c'est la clé. Quand on arrive enfin à se pardonner d'en avoir voulu à la terre entière, d'être ce qu'elle est. Et là, d'un seul coup, je pense que c'est comme quand on déclampe... les artères et que le sang revient dans les organes, quoi.
Mais c'est fou, Frédéric Lemarchand, parce que vous dites, en fait, il ne faut pas se victimiser. Mais vous, on peut se dire que vous êtes une victime de la vie qui a été dure puisque vous êtes né avec cette terrible maladie, vous êtes la victime de vos parents qui acceptaient de vous laisser mourir, vous êtes la victime de ceux qui ont trahi vos attentes amoureuses. Et vous dites, il ne faut pas se victimiser. Mais comment on fait?
Mais ça, c'est mon côté disciple, hein. Maître et disciple, hein, j'aime bien. Être disciple de la vie, finalement. C'est une école, la vie. Hein. Une haute école. Et finalement, l'autre, l'altérité, nous altère. Mais nous altère toujours pour faire sortir de nous un fruit qui nous dépasse. Sinon, on reste dans un huis clos infécond.
Et mortifère, quelque part.
Et mortifère,
c'est pour ça que vous dites qu'il faut bénir. Là aussi, ce mot que vous aimez bien.
Oui.
Et qu'à partir de cette épreuve que vous avez vécue dans le coma, vous en êtes sorti en bénissant les autres, en bénissant la vie, en bénissant vos parents, en bénissant. Ça veut dire quoi, bénir ?
Oui, ça va avec le regard princier. C'est-à-dire qu'il y a une bonne diction ou une malédiction. Le regard princier s'accompagne d'une bénédiction, d'une bonne diction. C'est-à-dire que je revisite mon passé en en tirant le fil de mes miracles. Et quand je vais pas bien, quand dans mon présent ça va mal, eh bien je revisite mes projections. Comme ça, je suis totalement responsable. Et je ne dépends plus de l'extérieur.
Mais ça, c'est ce que vous avez vécu dans votre coma. Ce qui veut dire que dans ces moments-là, vous viviez, mais qui vivait ? Puisque vous étiez donnée, je ne veux pas dire comme morte, mais presque. Il y a même eu des moments où vous avez été donnée pour morte. Donc, qui vit dans ce coma ? Qui vit dans ce moment dont on va aussi parler, d'expérience de mort imminente par laquelle vous êtes passée ?
Je ne sais pas qui peut répondre à ça, mais en tout cas, le corps était à l'état végétatif, tout en ressentant quand même tout le contexte médical autour de moi, le toucher des médecins.
Le toucher d'une aide-soignante.
Ouais, qui priait.
La main d'une aide-soignante.
Oh là là. Ouais, comme si j'avais des yeux partout et je voyais sa belle main de noir qui se posait sur la mienne. Et même si ses collègues disaient « Mais allez, c'est l'heure, Viviane, qu'est-ce que tu fais ?» Et elle disait « Mais je reste en numéro 7, je vais lui chanter des psaumes à la petite. »
Les autres disaient « C'est pas la peine, de toute façon, bah ouais, c'est un légume, quoi. »
Ah bah oui, oui, ça sert à rien. Mais elle, non, elle avait vraiment cette conscience que nous sommes une présence incarnée et qu'elle s'adressait à cette présence pour qu'elle reste dans ce corps parce qu'elle sera peut-être le témoin de quelque chose à délivrer par la suite.
Frédéric Lemarchand, vous avez vécu ce qu'on appelle aujourd'hui, et dont on parle plus ouvertement, une expérience de mort imminente. Vous vous appelez ça une expérience de vie agrandie. Vous pouvez essayer de nous partager, de nous mettre des mots. Je sais que c'est difficile hein, de mettre des mots sur ce que vous avez vécu à ce moment-là. Vous êtes donné mort cliniquement.
Voilà.
Et qu'est-ce qui s'est passé ?
Pendant ces 17 heures d'opération, il y a eu à un moment quelque chose de très compliqué, à savoir que mon donneur était très accidenté. Donc ils ont recousu mon cœur et le cœur de mon donneur. Et c'était quand même rarissime cette expérience-là. Et je pense qu'à un moment, j'ai jamais eu mon dossier hein, entre les mains, donc je peux pas dire à quel moment. Mais j'ai complètement décroché, quoi. Au moment le plus crucifiant, j'étais en pleine extase de quelque chose qu'on ne peut pas amener ici parce que tout est périssable de ce côté-là.
C'est-à-dire du côté de notre condition humaine. Quoi,
voilà. C'est ce qu'on veut dire, ouais. Et ce dont je parle est impérissable. Donc c'est impossible à traduire. Simplement, c'est comme être évidé par la foudre de l'amour, quoi. C'est vraiment le coup de foudre.
Mais là, c'était doux. C'était pas du tout ce que vous allez vivre après, que vous nous avez décrit un petit peu avant. Vous avez plongé dans vos enfers et vos enfermements. Là, c'était apaisant. C'était doux. C'était comment ?
Ouais, c'est comme si j'avais chargé mes batteries d'un amour que j'avais jamais ressenti ici, pour pouvoir affronter après toutes mes peurs.
Ça vous préparait à ce que vous alliez vivre après, que vous nous avez décrit ? Mais ça veut dire que vous êtes parti vers la lumière, vous êtes parti dans ce tunnel dont parlent beaucoup de gens qui ont fait les expériences de mort imminente.
Alors j'ai rien vu moi, j'ai juste été prise dans un bain d'amour, d'une lumière vivante. Et comme je ne me voyais pas et que je percevais la lumière, du coup j'imagine que j'étais plus qu'un œil.
Et un œil aimant, pas un œil juge, parce que voilà. Cet œil peut faire peur. On l'a mis souvent dans les églises, cet œil comme étant l'œil de Dieu qui voit tout, hein. Et attention, il nous surveille. C'était pas ça.
Ah non. C'est l'œil qui veille. L'œil qui nous veille. Que je vois dans les églises. Mais cet œil, c'est l'œil de ma perception. Après, je ne sais pas.
Mais qu'est-ce que vous avez appris, en fait, qui a complètement changé votre vie dans ce moment-là?
Ben, qu'il n'y a que l'amour. La vraie religion, c'est l'amour. C'est le seul endroit où on se rejoint tous, c'est le soubassement de tout, parce que je pense que fondamentalement, on est amour. Et que même si on joue les enfants prodigues et qu'on se perd dans plein de labyrinthes barbares, au bout du bout, ça sera genou à terre quand enfin on sera désarmé pour voir qu'en fait, nous sommes de l'amour.
Donc nous venons de l'amour, nous allons vers l'amour. Mais qu'est-ce qui se passe entre alors ?
Ben, entre, on joue un jeu, on a des costumes de dragon, des costumes terribles pour se faire peur, pour bien rigoler quelque part, pour se dire, mais tu vois, j'ai vraiment réussi à te foutre la frousse dans ce monde de barbares. Mais c'est un théâtre en fait, tout ça c'est un théâtre.
Une comédie humaine.
Une comédie humaine.
Mais qui est aussi une... dramatique.
Qui est dramatique,
quoi. Qu'est-ce qu'on souffre aussi dans cette condition
oui,
humaine ?
Oui, parce que, quelque part, l'incarnation est un grand cadeau. Et quand on commence à contrevenir aux lois du vivant qui entament et fait fondre le tissu du vivant, bah là, c'est dommage, parce que le théâtre est en train de brûler, quoi.
Mais Frédéric Lemarchand, vous le savez bien, certains vont dire mais ce monde-là, il est injuste, ce monde-là, il est marqué par trop de souffrances. Et vous, d'ailleurs, vous en êtes un exemple. Vous naissez, petite fille, avec une malformation. C'est injuste. Dieu est injuste. Dieu, il vous a créé tordu. C'est injuste.
Merci.
Et en même temps, il vous a créé très belle. Je corrige vite que les gens aillent voir votre visage et votre photo. Vous êtes très belle. Mais physiquement, vous êtes née toute tordue avec votre
Jacob,
petit cœur.
Jacob, il est tout tordu. Et puis finalement, il a marché droit vers son Seigneur. Donc c'est vachement bien d'être tordu. C'est la faille par laquelle s'engouffre plus grand que nous.
Heureux les fêlés, ils laissent passer la lumière.
Oui.
Il faut être fêlé. Mais c'est facile à dire ça quelque part, quand on va mieux ou quand on va bien. Mais quand on est dans la souffrance, comme le sont beaucoup de gens sur la Terre, il y a beaucoup de souffrance. Mais c'est quoi cette comédie humaine ?
Mais c'est pas ontologique, justement. C'est parce que...
Elle est reliée, quoi, là, ontologique, c'est-à-dire ?
Oui, elle n'est pas reliée à l'être profond. C'est quelque chose que l'on fabrique par nos projections et par ce verbe qui est créateur et qui est pour l'instant mal orienté.
Mais c'est notre faute à nous ?
Ah oui, c'est l'homme. C'est l'homme qui ne fait pas cette place à la lumière, c'est tout.
Mais c'est pourquoi vivre des expériences ? En fait, on est là sur cette terre pour vivre une certaine forme d'expérience de liberté qu'on paye cher.
Ouais, et de découvrir que nous portons la lumière. Nous sommes des porteurs de lumière.
Une lumière cachée ?
Une lumière cachée. Et parfois, le vitrail de certains... rayonne tellement, par exemple un Maurice Zindel, une Etty Ellisoum, Christiane Singer, Jeanne d'Arc, des êtres qui ont pourfendu la cuirasse et laissé passer la lumière, quoi.
RCF.
Frédéric Lemarchand, après cette greffe que vous avez vécue, ces 40 jours de coma, cette expérience de vie augmentée, cette descente dans vos enfers, On revient comment à la vie normale, entre guillemets?
On revient étranger à la vie normale. Très étranger, comme si... étranger à la famille biologique, parce que je me reconnais de filiation, entre guillemets, divine, comme on l'est tous, mais on le reconnaît plus ou moins. Et puis, étranger à ce monde qui s'obstine, pour l'instant, qui s'entête à mal dire le verbe qui nous est confié. Sa parole nous est confiée pour qu'on l'entende et qu'on s'entende. Mais pour l'instant, c'est le chaos. Et c'est aussi pour ça que je suis peintre, pour organiser le chaos.
Mais un chaos qui a sens.
C'est même, par exemple, face à une toile, c'est le vide, c'est l'abîme. Et quand on commence à percer ce vide, au départ, c'est informe, c'est le tohu-bohu.
Et même la toile blanche.
Oui.
Et même...
Voilà.
Rien.
Et puis même les premiers coups de pinceau, ça veut rien dire au départ. Je crois que c'est Padre Pio qui parle de cette tapisserie où, quand on regarde le dessous, c'est un sac de nœuds. Donc on comprend pas bien ce qui se passe de l'autre côté, du côté de l'endroit finalement. Là, on est peut-être du côté de l'envers. Et en fait, c'est une belle tapisserie qui se tisse. Mais il faut du temps. Ici, on est du côté temporel. Il y a un temps, une alchimie particulière.
Mais quand on vit une expérience pareille, on reparlera de la peinture, mais je reviens au niveau humain, vous avez vécu quelque chose qui vous a transformé profondément. Et en même temps, vous êtes toujours humaine, vous êtes toujours femme, avec vos limites, j'imagine. Vous n'avez pas été illuminée et transformée une fois pour toutes, non ?
Mais
ou
non.
Peut-être, je ne sais pas,
je vous pose
la question.
C'est justement béni, les limites. C'est comme le plomb dans le vitrail. C'est ce qui nous permet justement de tenir ici pour être des flambeaux vivants. Mais depuis notre finitude, c'est ça qui brûle. C'est ça qui s'enflamme.
Mais quand on a vécu une expérience pareille, Frédéric Lemarchand, on n'a pas envie de mourir, on n'a pas envie d'aller s'unir à cet amour immense.
Bah, disons que c'est là.
On a envie de rester là, sur la Terre.
Comme c'est là, et que ce sera le trophée final, la chambre nuptiale terminale, eh bien, autant prendre son temps avant. Je prends tout mon temps.
Et on peut y trouver du bonheur aussi, dans ce monde-ci.
Moi, je passe mon temps à être émerveillée, donc... comme je vous disais, avec un cheval qui s'appelle Jean Valjean, je fais mes tours en calèche. Et au pas du cheval, la vie est belle. La vie est belle. Alors c'est vrai que de mon côté, c'est facile à dire, la vie est belle. Mais la vie est d'autant plus belle que chez moi, elle est très menacée. Parce que je suis en phase terminale de rugine greffe. Et du coup, je goûte tout. Le printemps a une saveur... extrême.
Peut-être vous savez que vous pouvez mourir à tout instant, parce que ça fait combien d'années que vous êtes greffé maintenant ?
Là, ça fait 12 ans et ça fait 4 ans que je traverse un rejet de greffe très grave. Normalement, on ne me donnait pas 4 ans.
Ce qui veut dire qu'à tout moment, vous pouvez mourir.
Voilà.
Et pour vous, c'est une libération ou c'est une tristesse de quitter cette condition humaine ?
Tant que je n'ai pas tout vécu, ça sera une tristesse. Parce que j'ai beaucoup de choses à goûter encore dans ce monde.
C'est-à-dire
ma conscience
vécu,
a encore envie de goûter plein de choses. Ouais. Eh bien, je crois qu'elle a envie de goûter l'expérience d'amour ici, sur Terre. Que le ciel descende jusque-là.
Et au niveau... création artistique, alors parlons de votre peinture maintenant. Nous sommes ici, chez vous, au-dessus d'une école. Il y a des enfants qui sont en train d'étudier juste en dessous de chez vous. On pourra peut-être les entendre tout à l'heure quand ils vont sortir dans la cour de récréation. C'est drôle, vous êtes à Vézelay, à côté de cette magnifique basilique de Vézelay. Alors d'abord, un mot, pourquoi votre atelier ici dans cette belle ville de Vézelay, à deux pas de la basilique dédiée à Marie-Madeleine ?
Ouais. La colline éternelle de Vézelay, en fait, m'a attirée C'est la colline qui m'a attirée. J'ai été aimantée. Après une résidence d'écriture à la maison Jules Roy, j'ai senti que mes yeux n'étaient pas prêts de quitter ce paysage. Et effectivement, ma rétine, chaque matin, regarde le même paysage que de la maison Jules Roy, parce que j'ai la même orientation. Et en fait, j'ai tout plaqué. J'étais avant en Dordogne, en train d'étudier l'art rupestre. Et là, me voilà devant l'art roman, qui m'enseigne le génie des grands bâtisseurs et me remet en phase avec le sens cosmotellurique des puissances de Vézelay aussi.
Mais c'est pas en lien avec Marie-Madeleine, cette grande amoureuse de Jésus?
Alors effectivement, Marie-Madeleine, que je peux prier tous les jours depuis Vézelay, est celle qui a vu la première, la résurrection. Elle a déjà été préparée avec son frère Lazare. C'est comme s'il y avait déjà eu une initiation, de dire, attends, tu vois, la mort n'est peut-être pas la mort. 4 jours après, même tout puant, Lazare peut revenir. Et elle, c'est la porteuse de parfum, parce que justement, elle a tout donné, elle a tout retourné. Tous ces démons là dont je parlais tout à l'heure, elle a réussi à tout retourner par le Christ, comme si elle s'était remplie du Christ entièrement. Et cette femme qui ne cessait de le contempler, de l'écouter, de le suivre, de l'honorer, de tout donner, de donner son cœur en vérité d'amour, son cœur aussi liquide, à la fois de parfum et de larmes, en fait, son regard m'inonde, parce que elle m'amène toujours à avoir un regard moins sévère sur ce monde. C'est ce cœur liquide, plus miséricordieux, plus amoureux, pour essayer de voir jusque dans le néant, comme elle a fait, jusque dans la nuit, le jour, le plein jour. Et elle a vu la lumière là où plus personne ne voyait de la lumière. Donc elle m'aide à toujours à la conversion de ce regard pour arriver à ne pas baloter dans les tendances du moment, dans les jugements du moment, et à avoir toujours cette vision trine.
Dans vos toiles, il y a une grande place faite au visage. Alors, je suis heureux de vous recevoir dans cette émission Visage. Vous savez combien le visage compte pour moi. Et quand je suis arrivé chez vous, vous m'avez ouvert la porte et j'ai vu immédiatement un grand visage peint sur un fond bleu qui est dans votre coin de prière. Un visage qui fait penser au sanctuaire. Un visage d'une intériorité assez saisissante. Qu'est-ce que représente ce visage? Celui-ci et les visages que vous peignez souvent.
En fait, mon cœur est comme tatoué de ce linceul de Turin, de cet espace où la matière et la lumière sont sans arrêt en train de s'échanger. Et ce linceul de Turin, qui est quand même toujours le même modèle. Je tourne toujours autour, mais j'essaie des fois de m'en détacher, mais c'est lui qui revient toujours.
Comme les peintres d'icônes, j'ai l'impression, quelque part, les peintres d'icônes qui représentent souvent le visage du Christ en lien.
Ouais,
la sainte face.
Oui, c'est toujours ce face à face, de toute façon, face contre face. Alors, est-ce que c'est la susciter en la peignant, ou est-ce que c'est faire en sorte que tout mon corps se précipite dans cette transfiguration? En tout cas, j'aspire à ce chemin. Et le peindre ouvre le chemin, de toute façon, de ma direction.
Mais c'est un visage pour nous laisser regarder. Ce visage-là que vous avez peint, il a les yeux clos et il nous regarde à travers les yeux clos.
Il nous rejoint à l'intérieur dans ce fin silence. On n'est jamais seul et il est là. Il est priant avec nous. Il nous aide à rester vigilants à la présence à l'intérieur de nous. Il nous ramène au creux de son souffle, dans la main de son visage. La photolyse éclaire. C'est comme au moment d'Hiroshima, en fait. Le 6 août 45, c'est aussi le 6 août que l'on célèbre la transfiguration. Et en fait, soit ça se fait sur le plan extérieur, effectivement, c'est cette déflagration atomique qui nous fera tous disparaître.
Qui est destructrice.
Qui est destructrice et qui a laissé de tristes images sur les murs, pas tout à fait écroulés suite à Hiroshima, d'ombre en fait, des personnes qui ont été soufflées par la bombe. Ou nous allons toucher notre puissance atomique intérieure, comme le Christ a fait, d'abord sur le mont Tabor et puis ensuite lors de sa mort et résurrection. Et moi, c'est ce que je tends à peindre pour que l'on ressente à quel point nous sommes habités par la même puissance, cette puissance nucléaire, cette puissance qui fait de notre matière de la lumière.
Nous sommes tous invités à être transfigurés intérieurement. C'est en fait le but de cette existence, quelque part.
Oui. Je l'ai vu là récemment avec la mort d'un ami. Et en voyant son visage complètement détendu, alors que je le reconnaissais plus parce qu'il avait un visage très soucieux, très très froissé comme un journal froissé. Et en fait, à sa mort, lui qui était complètement athée, il avait un visage mais serein. Et ben voilà la transfiguration. Il a été pris dans l'amour.
J'ai interviewé un jour un médecin légiste. Il a vu beaucoup de cadavres. Il m'a confirmé que les visages sont toujours apaisés, sereins, au moment de la mort. Frédéric Lemarchand, votre peinture, finalement le but de ce que vous voulez essayer de transmettre, de communiquer à travers vos toiles, à travers vos séances parfois de peinture en public accompagnées par de la musique, qu'est-ce que c'est ce que vous voulez transmettre d'essentiel?
Ouvrir un espace dans l'espace. Parce que quand je suis face à une porte blanche, la peinture permet d'ouvrir.
La toile blanche, c'est la porte blanche.
Ouais. Et ça ouvre une issue là où il n'y en a pas. Et ça nous amène dans un espace, un horizon inconnu qui se dessine dans la force de la création, c'est-à-dire qu'elle vient pas du connu. La création, c'est de l'inconnu. Et donc à chaque fois, soit en direct avec le public, soit dans le silence de mon atelier, j'essaie, comme un fou, d'ouvrir une porte infranchissable.
Et emmener, prendre la main de celui qui contemple votre toile.
Après...
Ou ça vous appartient plus?
Non, ça m'appartient plus, ouais.
Vous êtes un instrument, quelque part?
Ouais. Oui, je suis un instrument.
Vous le ressentez vraiment?
Ah
ça,
oui, oui.
Quand
oui.
Vous peignez,
oui, oui.
Il y a quelque chose qui vient de plus loin que vous.
Oui.
Ça m'est donné, comme disait Chagall, ça m'est donné.
Oui. Bon, parfois, malheureusement, l'ego prend un petit peu la place et là, la toile est mauvaise. Hein.
C'est vrai.
Ah oui, à chaque fois.
Vous constatez ça.
Oui, oui, quand je ne suis plus au service Non, 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 et que je deviens fonctionnaire de mon œuvre, là, c'est fini.
Donc, vous le ressentez quand vous êtes dans ces situations-là?
Ah, ben, ça se coupe, c'est fini. Il n'y a plus rien d'intéressant qui sort, quoi. C'est... Je tourne en rond.
Et quand ça jaillit, quand vous êtes inspiré, vous le sentez aussi? Ou vous le sentez après?
Ah, je le sens après parce que c'est comme si je ne pouvais pas être vraiment là en même temps.
Sur la place.
Donc je suis un petit peu absente, et heureusement. Et donc je suis après spectatrice de ce qui a été traversé.
Et comment se mettre dans cette disposition-là?
C'est une disposition qu'ont les enfants très naturellement, hein. Quand ils sont absorbés dans leur jeu.
Donc c'est redevenir enfant.
Ah oui, oui.
Il lisait beaucoup Christian Bobin, je sais que vous l'aimez beaucoup, et c'est ça, quoi, c'est l'esprit enfant.
Oui, oui, ah, mais complètement. Complètement. Non, ils savent tout ça, eux.
Il y a une question que j'ai envie de vous poser, Frédéric Lemarchand, là, je vous observe. Il y a un mélange de fragilité chez vous et de force. Dieu est fragile.
Moi, je dirais que c'est le plus fragile.
On dit toujours la toute-puissance de
Dieu. Pour moi, c'est le plus fragile. Ouais, c'est le plus fragile, justement. Et effectivement, on peut l'écraser sous nos gros sabots facilement.
Vous l'avez ressenti, ça, vraiment?
Ah oui.
Fortement.
Oh là là.
Que Dieu est fragile.
Oui. Parfois, je suis prise par, pareil, des désirs de toute-puissance. Les derniers temps, là, quand je faisais avec les robots des transferts de mon sang pour l'irradier, c'était les derniers moments normalement d'une greffée en phase de rejet, je partais avec l'icône de Saint-Séraphin.
Saint-Séraphin de Sarov.
Saint-Séraphin de Sarov.
Arrête, orthodoxe.
Et puis, je me mettais devant l'icône et je disais, allez, Saint-Séraphin, maintenant, montre-leur au médecin. Montre-leur que je vais me transfigurer. Mais non. Mais bien sûr que non. C'est pas du côté du spectacle. C'est du côté, justement, au moment où j'ai renoncé à tout, donc à moi, même à ma propre vie, et que j'ai accepté de mourir, que là encore, je l'ai retrouvé.
Pour finir, Frédéric Lemarchand, cette question que je pose assez régulièrement à ceux que je rencontre, c'est pour vous, quel est le sens de cette existence dans laquelle nous sommes? Pourquoi sommes-nous là?
Pour tenter de délivrer tout l'amour qui nous habite et de le recevoir.
Merci beaucoup de votre accueil ici sur cette belle colline de Vézelay, chez vous. Nous sommes entourés de vos toiles. Je renvoie bien sûr les auditeurs à votre site internet et puis un beau livre que vous avez réalisé récemment.
Chère Lumière avec Audrey Fiella. Et puis aussi, je fais des expositions régulières et des conférences. Et la prochaine sera sur Jacob et l'ange, justement.
Eh bien, que les auditeurs n'hésitent pas à se renseigner sur ces expositions. Et puis surtout, je renvoie à votre site internet, comme ça ils verront vos peintures. Merci Frédéric Lemarchand.
Merci Thierry, merci.
Cette émission Visage vous a été proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Nathan Faure.